direct de la maison de quartier de Montbrun pour cette session podcast de Forge FM. Et bah, je suis content de le faire en live déjà, première chose. Donc ce soir, on va vous parler de plusieurs choses. Il y aura 4 personnes qui vont vous présenter des chroniques. Et je vais tout de suite faire le tour de table. Donc, bah, Dim d'abord. Ensuite, on a Kirou. Coucou Kirou. On a Greg, le président, cher président, ou président, mon président. On a Vonny, qui nous fait aussi des petites vidéos peinture. Et on a Dru, qui est principalement joueur. Et enfin, on a à la technique mon Pat Le Guen national, No Skill. Et on a un spectateur. Donc voilà, tout de suite en présentation, je voudrais juste faire un tour de table pour vous demander à tous, c'était quoi, qu'est-ce que vous avez mis dans votre panier ludique ce mois-ci, c'était quoi votre coup de cœur? Et je vais commencer par toi, Dru.
Moi, dans mon panier ludique, j'ai mis une quantité assez phénoménale et immonde de décors au Crisis, pour pas cher en plus. Du coup, je suis content. Et c'est à peu près tout.
Pas mal, hein,
alors, ce que j'ai mis dans le panier ludique, c'est principalement Obscurio, qui était une espèce de mysterium avec un traître, donc ça change tout. On joue avec les enfants, c'est top. Et là, petite nouveauté d'hier, Tiny Epic Mechs, parce que bah, les meeples en armure assistée, c'est quand même badass.
Ah, c'est des meeples en armure assistée.
C'est des meeples en armure assistée.
Vas-y, envoie,
je vais sortir ça pour la vidéo. Ouais.
C'est con, on va pas le voir, ils sont super bons. Voilà, c'est... Envoie notre tech marine.
Attends,
viens.
Vas-y. Tous ceux qui ont la fibre Battletech, mecha.
Mais peut-être vraiment derrière.
Et j'ai fait la première partie test cet après-midi. Mes fils étaient en pleurs, donc c'était cool.
Ah, ils sont discutés. Ah oui, c'est ça, c'est un peu le problème.
Alors, c'est un jeu coopératif.
Parce que j'ai pas du tout. C'est un jeu d'arène où on se poutre lamentablement la gueule.
Ah bah, je pensais que c'était un jeu coopératif. Moi, j'ai
Ah non, pas du tout.
D'où l'écrit.
Ah merde. Voilà. Je pensais que c'était coopératif.
Non, ce qui est très cool, l'air, c'est qu'on peut se refaire facilement. Si tu te fais ratatiner, en fait, tu peux revenir et tout.
Ah oui, mais donc, on est loin de ce que pouvait produire cette licence sur les quests.
C'est pas un jeu d'arène. C'est un jeu d'arène.
Ah, la flûte alors.
Ok.
Bon, donc, voilà.
Greg ?
Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait plein de choses.
Je sais qu'il a, acheté un truc aujourd'hui, mais il ne me l'a pas dit ce que c'était.
Non, je ne l'ai pas encore. Alors, c'est dans mon panier, je ne l'ai pas encore payé, ça va arriver. J'ai craqué pour The Back to Slade to Darkness, en gros AOS. C'est mon dernier achat. Donc les cartes qui sont bientôt introuvables, hein, comme toutes les armées pour AOS. Donc précipitez-vous si vous êtes comme moi, potentiellement un mec qui va ressocler sa vieille armée du chaos, c'est le moment. Vous précipiter vers au moins les cartes pour une dizaine d'euros, une quinzaine d'euros. Ça dépend si vous êtes bien vu par votre vendeur. Et puis bah, éventuellement le livre d'armée, parce que c'est toujours pénible, la dynamique de Games, de faire un print de tête et puis pas de réédition.
Ouais. Est-ce que j'ai une question, No Skill, est-ce qu'on nous entend bien? Parce que sur la table de mixage, on n'a pas le. Les petites diodes, elles s'allument pas.
Pause technique.
Il mangeait un casque.
C'est bon ou pas? Tu nous entends?
Okay,
c'est bon.
Et pour venir à l'AOS, la sortie c'était quand en fait de cette extension là?
La sortie. Alors en fait, là on est en préco pour Slave to Darkness. A priori, ça sera une livraison vers le 15, donc très prochainement. Gab, ça a ouvert les préco, donc dans toutes vos bonnes boutiques, vous pouvez, enfin, toutes les bonnes crèmeries, vous pouvez avancer vos préco.
Alors, en fait, il est dans le futur.
Crave. C'est dans le futur.
Bah après, c'est lui qui m'a dit ton dernier achat c'est quoi, c'est ça? Donc, C'était aujourd'hui, voilà, j'ai payé par PayPal, vous avez tous ces avantages.
Au niveau de ton PayPal,
c'est si vous voulez me verser quelque chose, ouais, vous me
donnez. Vas-y, à toi, Kirou.
Et moi, j'ai pas acheté grand-chose ce mois-ci, c'est assez étonnant.
Le mois dernier
Non, j'ai pas de souvenir. Par contre, je vais recevoir la fin du mois de décembre le Kickstarter de Moonstone Fantasy.
Ouais.
Sur lequel j'y avais pledgé il y a maintenant quelques mois, et je vais recevoir 2 factions plus quelques décors, donc. Je pourrais faire jouer ici à la forge.
C'est bien.
Ouais, on avait parlé il y a 6 mois.
Au niveau look, c'est quelque chose qui avait bien attiré pas mal de gens chez nous quand même.
Il y aura toi tester.
Il y a toi qui as cédé.
Ouais,
c'est toujours seul.
Ouais, j'ai failli. Mais...
Oui, il sera pas trop tard.
Trop de projets.
Ouais, il sera pas trop tard.
Ouais, ça sera vendu en boutique.
Ouais, c'est déjà vendu en boutique pour certaines factions.
Ok, je vais terminer avec moi. Greg, Greg le sait, j'ai acheté le jeu de cartes Dark Souls. Voilà, j'ai passé le pas du jeu de plateau. On peut appeler ça un jeu de plateau, plus ou moins. C'est le premier jeu de plateau que je me suis acheté, vraiment.
Ah ouais?
Curieusement, ouais, j'avais pas de jeu de plateau du tout. Mais j'ai profité du Black Friday chez Tilt Game, notre ami Thierry, qu'on salue. Et le jeu, c'est une super boutique et ils testent tous leurs jeux, donc quand ils donnent un conseil, en général, c'est plutôt pas mal. Comment dire, le jeu est super, c'est un jeu coop, extrêmement difficile. J'étais très fan du jeu vidéo et donc du coup, ils ont bien retranscrit la mécanique à travers les cartes. Par contre, alors, on peut jouer super tout seul aussi. J'ai joué tout seul 4 fois, donc c'était plutôt pas mal. Le seul reproche que je fais au jeu solo, c'est tu peux faire qu'un seul perso, quoi. Les autres persos, c'est vraiment compliqué. Tu sens que c'est fait pour qu'il y ait 4 joueurs autour de la table. D'accord. Et que les mecs se complètent l'un et l'autre. Et donc c'est un deck building. Sans rentrer trop dans les détails, tes cartes, c'est tes points de vie. Et tu construis ton deck au fur et à mesure. Tu ouvres ces porte-monstres, tu touches des trésors et tu recomplètes ton deck du coup avec les cartes que tu gagnes dans les trésors.
Et ouais. L'aspect graphique, il est proche du jeu.
Alors, il y a les critiques, les cartes, c'est exactement les mêmes trucs que dans le jeu, c'est pareil. Les monstres et les armures et les armes et les sorts, ouais, c'est les artworks du jeu. En revanche, ils ont mis un système de mana, un peu comme dans Magic. Là, ça se rapproche un peu des logos, mais c'est pas super joli. Bon, c'est ce qui est reproché un peu, les artworks sont limite sur les cartes, mais honnêtement. Avoir un système qui tourne si bien, Greg il s'est pris la tête malgré que ce soit un joueur de jeu de plateau émérite. Il m'a dit je me suis bien pris la tête, il faut quand même.
Il y a une vraie matrice à l'intérieur, un vrai moteur. C'est pas juste un jeu à licence pour te faire acheter de la carte parce que t'as joué au jeu vidéo. Quoi. Mm-hmm. On est vraiment sur quelque chose qui te demande un arbitrage et qui à travers un jeu coopératif tombe pas dans l'écueil de dire ok moi je connais le jeu, c'est moi qui décide, de toute façon il faut que tu fasses ça. Mm-hmm. On n'est pas là-dessus, il y a même des possibilités de dire bah non je te montre pas mes cartes, on communique peu. Enfin, peut vraiment aller chercher un niveau de difficulté en coopératif que certains jeux ne tolèrent pas en fait. Voilà. Alors c'est sûr que c'est pas forcément une récréation familiale. Hein. Jouer à Dark Souls, t'es là pour péter la tête.
Tu vas te faire défoncer. Tu vas
sur une durée de combien de temps à peu près?
Alors nous on a testé, je pense qu'une partie complète en mode full défi, 1h30.
Ouais, 1 heure même. Si tu connais bien le système et que tu sais bien te placer et que t'as du cul, parce qu'il y a aussi une
part une de heure chance. À deux, 1h30 à quand même.
Voilà, à deux avec Matt la semaine dernière. La semaine dernière. J'ai joué avec Matt, on a fait 2 parties en 2 heures, et enfin ça allait quoi. Bon, on n'avait pas tout maîtrisé, on a fait quelques petites erreurs. Mais...
Et donc à deux, tu prends 2 personnages à
l'heure. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en gros, globalement, dans les 4 catégories de base, t'as un soigneur, un guerrier, un magicien et un assassin.
Et tu peux pas imaginer de...
Si tu peux le faire, tu peux jouer comme ça.
Alors, il y a un intérêt à le faire. Bon, tu perds la dynamique vraiment coopérative. Le niveau de difficulté il est calculé aussi au nombre de personnes qui sont autour de la table. Le nombre de variables à prendre en compte, si tu es tout seul, je veux dire, tu n'es pas sur une forme de facilité. Tu peux dire ah bah ok, j'ai tout en main, je réfléchis, c'est moi qui décide. Ça veut pas dire que tu vas réussir pour autant en fait. Tu vois.
Ce qu'il disait qu'avec un personnage, c'est quasiment impossible de tout seul avec un seul perso.
C'est très dur, c'est très très dur. Ouais, c'est très dur parce qu'en fait, t'as y a certaines compétences qui, si elles ne sont pas présentes, tu peux te retrouver à un moment dans une impasse et elles te condamnent. Voilà. À partir du moment où tu ouvres le champ des possibles en ayant les 4 personnages autour de la table, on sait que le mec qui est là peut soigner. S'il n'est pas en capacité de faire ce tour-ci, tu essaies de temporiser. Mais si tu es vraiment en train de saigner des dents et que tu arrives devant le boss,
le gros problème, c'est comment tu vas arriver au boss. Parce qu'en gros, tu as 2 boss à tuer et comment tu vas y arriver. C'est comment tu vas arriver au boss et comment. Est-ce que tu vas survivre? Et après, il y a un côté de je protège l'autre, etc. quand tu es à plusieurs. Et comme je disais, le problème, c'est qu'en jeu solo, comme tu as qu'un seul soigneur, globalement, tu es obligé de prendre le soigneur à chaque fois. Quoi. Donc en soigneur, moi je l'ai fait en mode solo.
Ouais,
ça marche.
Une réserve là-dessus.
Ah, après, il y a la possibilité. Alors, j'ai pas testé. Enfin, je suis peut-être un peu trop violent, mais. Et. Alors, dernière chose, en termes de rejouabilité, c'est pas mal. Il y a des extensions, et comme je disais, ils proposent. Enfin, j'avais pas dit encore, mais ils proposent dans le jeu de mélanger ton deck
avec d'autres cartes, d'aller piquer des cartes des autres persos pour te faire un perso complètement
hybride.
Autre, quoi. Hybride, un assassin, ouais. Magicien. Et là, je pense que là, en solo, c'est plus facile. Voilà, donc on a fini le tour, petit tour de table. Alors là, maintenant, j'explique comment ça va se passer pour nos spectateurs et nos auditeurs. En gros, chacun a une petite chronique et va nous parler de sa chronique. Donc, je vais laisser une petite tribune ouverte où personne pose des questions. Et après, ben, c'est open au niveau des questions. On fera un ping-pong. Ceux qui sont... Est-ce qu'on est toujours en live ? Ceux qui sont en live, ils peuvent commenter, je pense. S'ils veulent poser des questions, ben voilà, Noskill fera le relais. Et je ne sais pas si on a plein de spectateurs. Je pense que non. Au moins 5000 spectateurs, 2 spectateurs.
Ah, c'est mieux. Hey,
2 spectateurs.
Ah, ouais, d'accord, ok. Ouh, ouh. Ouais. Bon, bref.
Likez, likez.
C'est,
bah, c'est ça la forge, on s'en fout un peu.
Ouais, on s'en fout.
Et c'est un live pas prévu. Hein.
Ouais,
on l'a pas annoncé.
L'intérêt, c'est de surtout tester la technique et puis notre capacité à nous projeter sur cette idée.
Alors, Greg.
Contenu, quoi.
Avant de préparer ta petite chronique. Je vais lancer le générique.
Le petit jingle.
Le petit jingle. Donc, Greg va nous parler surtout de...
Comment devenir un prince saoudien.
Comment devenir un prince saoudien. Vas-y, Greg, je te laisse parler. Donc, explique le but de la chronique.
Alors, le but de la chronique, en fait, c'est de lancer... Enfin, d'offrir des opportunités à chacun pour se lancer dans le jeu de figurines à moindre coût et puis d'éviter les écueils d'une dépense un petit peu abusive. On a souvent tendance à aller vers l'achat compulsif et donc de craquer notre thune pas forcément sur quelque chose qui va nous servir. Donc étonnamment, j'étais pas mal questionné par des nouveaux joueurs sur voilà, j'ai un budget plutôt serré, comment je fais pour arriver à monter une armée, pour démarrer tel jeu. Mais récurrente, la question c'est j'aimerais te démarrer à 40 000 mais je suis fauché. Donc c'est quand même voilà le défi, c'est de dire bon ok, j'ai peu de pognon. Comment je fais pour vous retrouver sur un jeu de masse ou un autre jeu pour démarrer le jeu de figurines à moindre coût ou en tout cas de manière, on va dire, un peu par palier. Voilà. Donc Games aujourd'hui est dans cet axe de réflexion, mais pas que. Il y a aussi une lutte pour Games à lutter contre ce que j'appellerai après le marché gris. Voilà. Donc on va expliquer un petit peu toutes les astuces aux gens qui veulent découvrir la figurine à moindre coût. Voilà.
Ok,
c'est
donc.
Ça va être le but de la chronique en fait.
Ok, donc du coup, je suis un jeune joueur, frais, dispo, je connais même pas ce que c'est 40 000. Je rentre dans une boutique, parce que bien souvent c'est comme ça que ça se passe. Hein. On rentre dans une boutique Games, c'est la porte d'entrée du jeu. Imaginons, j'ai acheté un Conquest, le premier numéro à 2 euros. Je dis, c'est trop bien, il y a 3 figurines, il y a du pot de peinture. Mais vite! Faut que j'achète une armée parce que ça existe, je le vois dans les. C'est comme ça que j'ai découvert la figurine. Hein. J'ai eu un Space Crusade et puis après j'ai vu qu'il y avait des armées, je fais oh, trop bien. Et après j'ai eu mon premier salaire et puis j'étais dans une boutique et là ça a été la douche froide. Hein, à l'époque c'était en francs.
T'es reparti avec pas grand chose.
Non, je suis reparti avec vraiment pas grand chose, hein, avec deux boîtes et le codex. Hein, ouais. Puis j'avais tout dépensé, 900 francs à l'époque. Donc, bah, alors vas-y. Alors,
900 balles, 900 francs.
À l'époque. Ouais, j'avais acheté un codex Dark Angel.
Ça faisait quand même que 14 blisters à l'époque. Des blisters, je rappelle, il y avait 3 figurines dedans.
Ouais, c'était vraiment chaud.
Hein. Ça fait 40 figurines.
Hein. Aujourd'hui, 135 euros hein, pour les plus jeunes. Ouais.
Voilà, c'est ça 900 euros 135 euros
900 francs, ouais. 135. Ouais, c'est parti, c'est la ligne.
Putain la vache. Ah, j'ai dépensé beaucoup de sous.
Bah, c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, c'est une vraie question quand tu démarres le hobby, de te dire ok, il y a les conquests, c'est une super affaire.
Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu. Le gars, genre, il a eu ses étrennes de sa grand-mère, et tout ça, il a 16-17 ans, il a son petit pécule, genre, il a 100 euros. Voilà, 100 euros. Et bah, très bon point de départ, 135 euros comme moi, 900 francs à l'époque, qu'est-ce que tu fais ?
Alors, tu fais plein de choses avec 135 balles.
Vas-y, explique-nous.
Alors, on va parler que de l'armée, d'accord ? Et puis on va se positionner sur je veux jouer.
Ah ouais, voilà.
Que le problème de cette histoire d'argent, c'est surtout ce que tu veux faire comme jeu. Donc là, on parle du postulat, c'est un gamin, il n'est pas dans je veux faire de la méta.
Non.
D'accord ?
Oui.
Parce que ça, c'est quelque chose de très spécifique. D'accord ? Si tu chasses la nouveauté, donc tu ne seras pas dans le même ratio.
Ouais.
Ces filières-là, les gens les connaissent. Globalement, c'est t'achètes en Angleterre, tu chasses les salons, etc. Voilà, on est là-dedans. On ne parle que de games, d'accord ?
Mm-hmm.
Moi, je vais parler de je démarre le hobby. C'est pas le même individu. Je ne joue pas, j'ai pas la capacité, je vais y aller. Aujourd'hui, le marché gris, l'occasion, c'est quelque chose contre lequel Games veut lutter. La preuve, c'est le renouveau des gammes, le changement d'échelle, très clairement, voilà, les changements de gamme. Il faut savoir que les Space Marines représentent globalement 60% des volumes de figurines, à peu près, hein, la louche, enfin, au moins 50% des figurines distribuées par Games sur le jeu Warhammer 40.
C'est que du Space Marine.
50% de ce qui est de 40 000, c'est du Space Marine. Le renouveau de la gamme vers du Primaris et l'arrivée des nouveaux véhicules balaye tout ça, on le sait. Donc, tu as 130 à 135 balles. Aujourd'hui, moi, c'est moi qui l'ai acheté, donc je peux même vous donner la. La pour 100 euros, j'ai acheté une armée Blood Angel full. 100 euros, tu as une armée Blood Angel complète, complètement jouable avec le codex, etc. Alors, certes.
Avec le codex.
Ouais, vraiment. Donc, des mecs qui arrêtent, tu vas en trouver. Tu vas en trouver, et pas forcément sur eBay. eBay, c'est plus la bonne plateforme, en fait. eBay n'est plus une bonne plateforme. Pour deux motifs.
On a armé sur eBay, merde.
Non, alors, la vendre sur eBay, c'est une certaine chose. Faire de la chasse ou de la chine sur eBay, c'est plus aussi intéressant qu'à une époque.
C'est
plus aussi intéressant qu'à une certaine époque. Pourquoi ? Parce que, bon, il y a déjà la plateforme en elle-même, eBay, où tu n'es plus en capacité d'aller chercher des acheteurs qui n'ont pas programmé sur leur annonce de la vente internationale. Donc, par exemple, les Anglais qui cochent jamais le côté je veux vendre international, tu les perds, tu les vois plus sur eBay, alors qu'avant tu pouvais le faire. Je peux comprendre, il y a un localisateur de là où toi tu te connectes, du coup ils excluent les gens qui ne sont pas de ta nationalité. Donc, par exemple, moi hier, je me connectais sur eBay.uk et je contactais directement des Anglais qui ne mettaient pas l'option internationale. Et je leur envoyais un petit message dans mon anglais proche du roumain. En disant, je suis prêt à envoyer ça.
Bonjour, mon nom est Grégory, je veux acheter toi, est-ce que tu veux?
C'est un peu ça. Donc, et ça fonctionne assez bien en fait, hein, à partir du moment où tu as du cash, le mec il fait l'effort de travailler. Donc ça représentait quand même une vraie source parce que le marché anglais il est au moins équivalent au marché européen. Alors, nous, plus les Allemands, plus les Italiens, plus... Enfin, il y a beaucoup de vendeurs là-bas. Et ils vendent assez rapidement. Donc ça, on l'a perdu. C'est le problème principal pour moi de l'idée. Et je ne parle même pas du marché américain, où tu retrouves la même interrogation. Donc ce localisateur, on va dire eBay, c'est une plaie pour nous. Et après, ben, va se rajouter une deuxième même qui va être le Brexit.
Ouais, voilà. Ça, c'est...
Donc quand ça va arriver, forcément, la réclamation de taxes sur eBay s'imposera aux gens qui achètent dessus.
Et tu crois qu'il y a moyen de blouser le...
Avec un VPN, je pense qu'il y a moyen de le blouser.
Tu t'es posé la question, quoi. Il s'est posé la question.
Ouais. Bah, j'ai testé, mais bon, mon localisateur GPS, c'est celui de mon smartphone. Donc, bref, voilà. Donc, mais ça, c'est une piste à creuser pour continuer à faire de la bonne affaire. Globalement, moi, les très très belles affaires que je fais, ce sont chez les Anglais. Voilà. Les Anglais, c'est vraiment que ça reste l'hebdomadaire.
Mais alors, comment tu fais du coup si tu fais plus de
parler des... Je le faisais. Alors maintenant, comment je fais? La vraie question, c'est comment je fais. C'est malgré tout sur eBay, il reste l'aspect graphique des choses. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher du lot. Acheter individuellement est beaucoup plus cher que d'acheter du lot. Ça, c'est vraiment la règle d'or. Donc, il faut accepter, quand tu as peu de pognon, alors je parle pas du gamin de 12 ans, mais quand tu as peu d'argent, tu as une vingtaine d'années, tu en es dans la vie, tu veux retourner au hobby, il faut accepter d'acheter un lot. Il faut accepter d'acheter un lot et de ne prendre qu'un extrait de ce qui t'intéresse à l'intérieur et de le revendre. Alors, évidemment, si tu me dis, ok, j'achète du Space Marine, pour l'exemple, Blue Angel, c'est ce que j'ai fait. Moi, ce qui m'intéressait dedans, c'était les rhinos, c'était les personnages, la garde sanguinienne, il y avait du de la compagnie de la mort, et à la base je cherchais des figurines Primaris, il y en avait que 3 dedans, d'accord, je cherchais celles qui sont sorties là en Conquest, bon, les agresseurs je crois, les mecs ils ont soit des lance-flammes, soit des ratata, donc je cherchais ça à la base, et je tombe sur un Hug Low Blood Angel, voilà, c'était le terme, donc ça c'est le mot-clé, Hug,
c'est
donc,
pas huge,
huge
parce
voilà.
Que Hug c'est
un
carré, allez on va faire un Hug Low,
un Hug Low, c'est pour vous dire mon niveau de Roumain,
oh il m'a tué.
Donc, c'est pour vous dire que je parle pas anglais.
Huge, huge. Huge. Tu le vois des fois aussi dans tes spams, huge.
Ouais. Voilà, c'est quoi ça?
Non mais,
c'est énorme.
Ce
énorme.
Jeu est interdit au moins de 18 ans.
Ah, yes, ça va.
C'est énorme.
Donc, bref, ce mot-là, c'est un mot-clé, en fait. Réellement, tu vas réussir à trouver des mecs qui vendent en gros lot, même des Anglais et des Américains qui sont prêts à vendre à l'international. Et au plus la photo sera dégueulasse, au moins il aura mis de photos, au plus tu as de chances de matcher.
Ouais.
D'accord ?
Ouais.
C'est vraiment l'aspect graphique de la photo, et par rapport à ce mot-clé-là, qui va faire que tu as une chance de matcher une belle armée. Pourquoi ? Parce que les gens ne vont pas se positionner. Voilà, je ne sais pas comment c'est peint, etc. Faut pas hésiter, tu contactes le gars, tu lui dis, écoute, si tu veux prendre quelques photos de quelques figurines, il va vous les envoyer. Il veut vendre, il va vous les envoyer.
Ouais. Dans donc toi tu dis, tu cas, chasses en gros le mec qui a mis des photos dégueulasses, tu vois,
pas grand chose.
Qu'il a rien à foutre en fait. Allô, photo dégueulasse, globalement le mec qui veut s'en débarrasser.
Ouais.
Voire même le mec qui t'a pris une photo d'une boîte avec tout en vrac.
Ouais, ouais, ça souvent ouais. T'as ça hein, chez
donc,
les Anglais.
Donc ça, c'est, on va dire, c'est les bonnes affaires potentielles. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur du contenu, bah, t'as les photos qui suivent derrière et les gens ils prennent pas le temps. D'accord ?
Ils, ouais, ils voient la première photo.
Ils s'emmerdent pas avec ça. Alors que quand tu regardes un peu les descriptifs et puis ce qu'il y a dedans, bah là tu tombes sur la bonne affaire. Le problème c'est qu'une figurine individuelle c'est jamais une bonne affaire. D'accord ? Le mec il sait ce que ça vaut, il te la vend, il sait que tu en as besoin pour ton armée, il va toujours te mettre un prix de ouf. Donc ça il faut l'écarter, il faut pas aller chercher. Seulement si tu veux vraiment compléter ton armée. Mais le H-U-G-E, l'eau,
huge.
Huge. Donc le gros lot, tu le gros lot, huge, c'est comme ça que tu le repères. Donc le... Ouais, je viens d'avoir un mec qui lève un bras.
Vas-y, continue.
Donc, ce gros lot, c'est vraiment ce vers quoi il faut aller. Alors, il y a deux impératifs. Tu n'as pas de pognon, tu ne vas pas choisir ton armée, en fait. D'accord ? Si tu la veux tout de suite, bah, tu es tributaire du marché.
Ouais.
Si le mec ne vend pas, tu n'es pas commandé.
Alors, c'est qui en ce moment, les Marines, ils ont la hype, du coup.
Alors, les Marines n'ont pas tant que ça la hype, parce que les mecs rechargent du prix Marines. Donc,
quand je te dis Marines, je te parle Marines actuel. Le primaris, c'est ce qui est plus haut dans les prix là en ce moment.
Alors le primaris avec le up, alors c'est aussi ça, c'est-à-dire que la méta chez Games fixe le prix du marché.
Ouais, c'est vrai.
Donc,
c'était pareil avec War Machine aussi. Hein.
Alors War Mac, on le sentait moins. War Mac, la figurine était absente. D'accord ? Elle était pas là. Après, ça existe aussi dans l'univers de Games. Hein, par exemple, tu vas me dire, ah ben je joue Drukhari, je veux acheter les.
Les grotesques.
Les grotesques, les trouver d'occasion, c'est pas le pire.
Non, c'est pas la peine.
D'accord, c'est pas le pire.
De toute façon, les figurines sont dégueulasses actuellement.
Oui, non, mais je veux dire.
Merci, Swap.
Si tu pars sur cette orientation-là, qui est de dire je veux une armée méta, tu vas prendre un. Si tu dis ok, je veux jouer, je veux démarrer, le postulat de base, c'est complètement jouable d'avoir une putain d'armée pour moins de 100 balles. Vraiment, hein. C'est.
Ouais, c'est en voulant jouer, tu joues pas méta, t'as envie de t'acheter des figurines. Bah, donc, du coup, Tu fais quoi ? Tu cherches le huge low, ça sera le mot de la soirée, sur Uglo. Mais est-ce que du coup, ça vaut pas le coup ? Parce que moi, par exemple, j'achète quasiment exclusivement sur Facebook maintenant, c'est vrai que ça a changé. Avant, j'achetais sur eBay. Est-ce que ça vaut pas le coup d'aller se foutre sur des groupes de vente anglais sur Facebook ?
Alors oui.
Est-ce que tu as tenté ça ?
Alors, ça vaut le coup. Le problème, c'est que la réactivité du marché anglais est nettement supérieure. Enfin, sur les forums, nettement supérieur à ce que nous on connaît, quel que soit le forum, tu vois, même sur le Warfo. Et le problème des forums, c'est que les prix, on va dire, c'est il y a un prix forum quasiment qui est quasiment installé. Les mecs vendent très rarement à une décote vraiment importante, sinon tu n'as pas le temps de le voir en fait. Pourquoi ? Parce que les annonces sont bien rédigées. Le mec il sait ce qu'il vend, il le met sur le forum, il s'adresse à des connaisseurs. C'est pas tu vas trouver ce qui t'intéresse sur ces types de forums, mais tu vas pas faire une affaire. Va tout casser, d'accord. Pour moi, une bonne affaire, c'est un truc que je paye au moins 50%.
Ouais, ah oui, à 50%, c'est chaud. Ouais. Moi, c'est 30%. Quand c'est 9 sous grappe, même 9 sous grappe.
On va y venir. La forme que la figurine prend, elle a aussi son intérêt. Aujourd'hui, c'est très rare de tomber sur la figurine mal montée. Ça existe encore, mais globalement, le plastique permet. Les figurines mal montées, il y en a très peu. Je vais expliquer pourquoi. Parce que la plupart des figurines vendues sont en plastique. Les mecs qui montent comme des porcs, ils collent ça à la cyano. Ça se décolle très facilement. Ça casse. Tu la casses. Les mecs qui savent monter, ils collent à la U. D'accord ? Et là, ça tient vraiment. Mais globalement, tu n'as quasiment pas d'entre-deux. Tu vas récupérer une figurine qui est déjà montée, peut-être pas comme tu veux, qui sera pas ébarbée. Le mec, il aura laissé quelques détails. Mais, globalement, ça fait beaucoup plus le café que quand on achetait des figurines en plomb.
Oui.
Vraiment. Et qu'il fallait assembler. Parce que là, c'était quand je disais crado, c'était vraiment crado. Aujourd'hui, des mecs qui ne savent pas se coucher, il y en reste, hein, mais très peu.
Il existe le Glanzer aussi.
Et il existe, j'allais revenir, le 5 Glanzer. De toute façon, la recette, elle est simple. Si tu n'as pas de pognon, il te faut du temps. D'accord ? Il te faut du temps, il te faut de la main d'œuvre. Voilà. Donc ça, pour moi, les forums anglais, oh, voilà, je le nuancerai. Ça reste... Ouais. Bah ouais, je le nuancerai. C'est, voilà. Pour moi, le bon coin, c'est un peu con à dire.
Mais ça, le bon coin, moi, j'ai eu une mauvaise expérience avec un certain codex d'Esgard. Au tout début où je me suis lancé, c'est vrai que je fais pas mal d'affaires sur le bon coin. Malheureusement, il m'est arrivé un truc. Donc le, moi je mettrais mes 2 centimes d'euros et non pas de francs. De dire quand vous achetez sur le bon coin, mais je pense que la plupart des gens, c'est un truc que tout le monde connaît maintenant, c'est de quand tu payes sur le bon coin par PayPal, tu mets l'assurance. Tu dis je paye et on fait les frais. Et si le mec te dit ok, les frais PayPal c'est pour toi, bah, ok. Mais moi, c'est parce que moi j'ai acheté un mec. Le mec en plus, c'était normal quoi. Il avait un Facebook et tout, je l'ai retrouvé. Il m'a jamais envoyé le codex. En fait, je l'ai payé, il m'a jamais envoyé.
Après, je veux dire, les mauvaises expériences, ça existe. T'en as sur toutes les plateformes de vente. Ça représente un risque. D'accord. Alors tout à l'heure, j'ai évoqué le chiffre de 50%. Je faisais un peu lever les yeux.
Ouais.
Par rapport à l'état de la figurine, je reviens dessus. Si tu veux une figurine en boîte, c'est évident que tu vas pas palper la figurine à un prix de ouf.
Et c'est quoi alors ton taux sur une figurine neuve?
Une
figurine. Alors on va dire, t'as trois niveaux, t'as sous cello, monté, sous couché et peinte.
Ouais, il y a ça, mais il y a plus de critères que ça. Le critère vraiment déterminant, c'est est-ce que c'est une figurine exclusive Games? Est-ce que je peux la trouver chez Wayland ou chez un revendeur lambda? D'accord. C'est un critère hyper important ça. Pourquoi? Parce que si le mec me dit ok, je te la vends moins 30% par rapport à Warhammer Store, je m'en fous en fait. Je peux la palper quand je veux.
Moi, c'est ma référence. Ma référence, c'est Wayland.
Il faut profiter.
Prix Wayland. Si c'est moins cher que Wayland, c'est bon. Si c'est plus cher, c'est mort.
Oui. Après, il y a ce phénomène de disponibilité aussi. Bon, voilà. Et puis le risque que tu prends aussi en achetant d'occasion. Donc, ça forme un équilibrage. À partir du moment où tu es réellement sur une tranche de prix qui est vraiment inférieure, tu dis ok, ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup. Moi, je te dis, mon armée Blue Angel, j'ai fait le compte. Il y en a pour 440 euros de matos. J'ai payé 95 euros. Là, ça, c'est une vraie.
T'as fait le calcul.
Alors, après, moi, je suis comme ça. On parle de ça.
Je vais dire, il y a une vraie solution pour ceux qui nous écoutent et qui sont en galère, c'est passer un épée à Greg et vous dégote une armée.
Alors, je l'ai fait, ça.
Il prend une commission et.
Non, j'ai pas pris de commission, mais je l'ai fait à une certaine époque. Bon, après, il faut avoir un goût pour la Chine. Là, j'ai une commande.
Pas pour le recast.
Ouais, la Chine, non pas pour le recast, enfin la Chine au sens
chinois. Stop, attention messieurs, là, on est
politiquement sensible.
Ah oui, c'est vrai, il faut pas trop, faut être plutôt politiquement correct.
Ouais, c'est pour ça que je précisais.
Ouais, non, mais t'as raison.
Chiné, voilà, du verbe chiné.
Voilà,
pas de chinoiserie, donc ici,
n'est-ce pas? Donc là-dessus, non, ça m'arrive, là je recherche une armée orque. J'ai beaucoup de mal à trouver un plan d'une armée orque vraiment sympa. Je trouve en plusieurs morceaux, mais toujours un peu trop haut en fait.
Il y a eu les sorties avec le Speedwagon, Speed Freaks.
Très clairement, ce que tu trouves le plus facilement, de manière plus aisée, après il y a les conventions, on n'a pas plus le temps d'en parler, mais les conventions c'est aussi une ressource. Quand il y a un Bring and Buy, voilà, mais il y en a de moins en moins en France qui font un Bring and Buy figurine, ça devient plutôt jeu de plateau. Mais bon, ça existe encore, faut vraiment pas hésiter à aller fouiller ça. Globalement, pour les produits Games, la méta et pour les autres jeux, leur vie fixe ce qui va être vendu. En fait. Voilà. Donc, par exemple, on a été au gros salon de la figurine à Anvers. Dans la voiture où on allait, on faisait un covoiturage et tout le monde était « Alors, qu'est-ce qu'il va avoir au Bring and Buy ?» honnêtement, j'ai pas de boule de cristal. Je leur ai dit pile poil ce qu'il allait avoir au Bring and Buy. Je leur ai dit « Il y aura du Necron, il y aura ça, il y aura ça. » Et les mecs, ils étaient sur le cul. J'aurais dit, ouais, il y aura de la machine démon, mais il n'y aura pas celle-là. Elles ne seront pas dedans, parce que tout est méta. Voilà. Et ce que vous verrez disparaître, c'est les véhicules Space Marine que j'ai achetés l'année d'avant. J'ai acheté tous les véhicules Space Marine qui aujourd'hui sont devenus méta. Donc tous les trucs volants, là, où les mecs sont en mode Iron Hands, ils vont survoler la bataille en balançant plein de ferrailles à travers tout. Moi, je les ai achetés l'année d'avant. Plus personne n'en voulait. Ah, Space Marine, c'est de la merde, je balance tout. Donc j'ai acheté ça 5 balles pièces. Qui vaut 50 euros.
Donc, t'es en train de nous dire qu'il faut jouer mou.
Exactement. Jouez mou, gardez vos figurines. Voilà.
C'est ta conclusion
C'est ma conclusion. Jouez mou, gardez vos figurines, lancez-vous dans le hobby avec une armée qui n'est pas méta, tôt ou tard, elle le sera.
Donc, voilà, je récapitule donc pour les gens qui écoutent là, au niveau thune, du coup. Vous l'entendez pas, mais j'ai mis le bas. Donc, chiner sur plutôt les Anglais. Facebook, maintenant c'est Facebook, on est d'accord.
Les plateformes françaises.
Les plateformes Facebook, bon, ça, je pense que tout le monde le fait. Tu peux descendre jusqu'à un prix de moins 50, c'était la grosse info. Moi, je pensais que c'était moins 30 et encore. On parle de. Tu peux essayer
moins
de trouver
30,
du.
Moins 30, ça n'a pas d'intérêt. Je vais expliquer pourquoi. Moins 30, ça n'a pas d'intérêt. Bah oui, non, c'est important. On parle vraiment.
Ouais.
Moins 30, ça n'a pas d'intérêt puisque sur un regroupement d'achat.
Moins 30%.
Le... Ouais, moins 30%. Sur un regroupement d'achat, vous pouvez rapidement y arriver. Donc,
ouais. Ça oui, c'est vrai. En commande groupée, tu veux dire.
Oui.
À l'intérieur d'un club
bien
ou quoi.
Sûr. Tu peux sur, à l'intérieur d'une asso, bon, après, voilà, mais sans donner de secret. Il y a une possibilité sur un vrai bundle d'aller chercher ça. Et même sans faire trop d'efforts, vous contactez les boutiques sur Facebook qui font une promotion de. Qui cassent des prix. Les mecs vous disent ok, vous achetez la boîte machin, moins 30%. Le mec, il n'a fait aucun effort. C'est une boutique à pignon sur rue, ben voilà, il vous vend une boîte, il fait moins 30.
Tu peux nous rappeler combien on a eu sur Warlord? Ces petits coucou à l'équipe de Warlord, bon, je pense qu'ils ne nous regardent pas, mais.
Combien on a eu sur.
Combien sur. On a... Alors, faut savoir qu'au Crisis, on a acheté un méga bundle, on a négocié assez dur.
C'est très durement.
Très durement, c'était compliqué, ils voulaient pas négocier. Mais ouais. On a donc c'est pour dire qu'on a
je
négocié un truc.
Gardé leur putain de carton, ouais, voilà. Que j'allais le commander.
En
sur
gros,
leur
ils étaient venus ouais, sur ouais. Le site, ils avaient ramené notre commande en croyant que tout bonnement on allait payer comme un gentil petit
britannique.
On allait payer sans négocier. voilà. Mais nous sommes français, monsieur.
Ouais, on est
français. Hein on est français.
Chacun se bat pour ce qui lui manque le plus, nous on se bat pour du pognon.
Donc, les autres pour l'honneur. Hein.
Ouais, c'est ça.
Donc, combien on a eu ouais. On a dépensé.
Alors, ils nous ont fait la livre sterling à l'euro. Et ensuite, ils nous ont fait 22, je crois, ou 21%.
Ce qui équivaut à 30.
Sachant que c'était déjà des bundles qui étaient déjà soldés.
Non, les bundles étaient à moins 40%.
Là en spectatrice, mais hein,
ouais. Le contenu des bundles ont gratté 40%.
Mais ouais. La clé, c'était de venir en masse.
Oui. Bon, la clé,
c'était
aussi
de venir à 10 sur le stand aussi.
C'était de venir en mode forge ludique tout autour du gars, lui dire bon bah tu vas le garder ton carton maintenant, hein, mon gars. Yes.
Non, il m'a gonflé. Quoi.
Oui, il était pas très gentil.
Il m'a quand même gonflé parce que en fait entre l'accord, on va dire écrit, et puis ce qui se passe sur place, c'était pas cadré. Ils ont pris vraiment comme si on était des merdeux. On leur dit écoutez, en France, votre jeu il est pas connu, il y a un intérêt pour vous. Voilà, il y avait eu des accords de principe, et puis le mec sur place, il dit vas-y, tu prends sur ta carte bleue, puis c'est plein pot. Ah, c'est mort, là, tu me parles pas comme ça.
Donc, au final, on a obtenu un très bon prix. C'est pour dire que.
Il a cassé le prix parce que je lui ai dit tu repars avec ton carton, tu traverses le channel, je commande sur ton site, et tu l'envoies chez moi, tu payes les frais de port. Ouais. Ça te laisse combien, 10 kilos.
Ouais, voilà, la leçon à retirer, c'est qu'il ne faut pas hésiter à négocier.
Comme voilà, c'est ça, voilà. Négocier. Arrêtez de croire qu'une figurine, le mec qui vend. Mais fâchez plein de gars qui doivent vendre des figurines là. Le mec qui te vend à un prix qui est pas au prix Wayland, c'est mort. C'est pas le bon prix.
Ah, tu parles d'occasion sur le marché français.
Moi je parle d'occasion.
Ah, oui, ça, clairement.
Moi le mec qui me met un truc au tarif, c'est même pas Wayland, basta.
Après
il y en a qui achètent. Hein,
T'as raison de le dire parce qu'il y a beaucoup de spéculateurs. Hein. Enfin, ouais. Là on a avec les sorts de bataille cette semaine, ouais. On le verra avec d'autres trucs. Après il y a les tarés du Conquest qui ont acheté ça à 1€ qui vendent 15.
Oui, ça c'est pas mal aussi. Le dernier truc que j'ai vu quand même, c'était les figurines. Ça fait le tour sur Francis Mini là. Les figurines offertes au magasin Games Workshop vendues sur Le Bon Coin, 30€. Il y avait 3 figurines. Il y avait 2 Stormcast, 1 Space Marine, le mec vendait 30€.
Bah après, ça.
Ça, c'est.
Ce n'était pas des collecteurs.
Non, c'est. Ah, non. Pas de collector, rien, c'était une figurine. Bah,
après, ça a dit le monde de la figurine, mais il faut on voit quand même pas mal de nouveaux joueurs arriver à la force, des gens qui sortent du jeu de plateau et qui franchissent le pas, on pourrait dire le Rubicon, puisque c'est un mot chez Games, de la figurine. Ils sont en découverte complète, donc ils se disent ah bah ça doit être quand même une affaire. Et on n'a jamais assez dit que non, il y a des mecs qui tentent quand même dans notre milieu d'arnaquer des gens. Enfin, faut être très clair. Enfin, il y a une forme d'arnaque, quoi.
Oui.
De la figurine promotionnelle gratuite. Bah, voilà, c'est un peu chaud.
Parce que tout le monde se dit que les mecs qui font de la figurine, globalement, attends, on va pas se faire ça entre hobbyistes, non? Alors, il y a le côté de on a de la thune. Et il y a le côté de, on est entre hobbyistes, on se fait, enfin tu vois, entre joueurs, entre on, se fait, ouais, on se fait pas de crasse quoi.
T'es passionné donc vas-y.
Sauf que, ouais voilà. Et ouais. Sauf que, en fait non. Non, c'est pas ça. Les gens, ben, comme dans tous les milieux, c'est voilà. Donc ça sera le mot de la.
Ouais.
La fin de jouer mou.
Jouer mou, trouver une armée qui est complètement sortie de la méta. Vous inquiétez pas, la V9 qui arrive bientôt, hein, je vous apprends rien. Vous serez dans le top 10.
Arrêtez de vous faire avoir comme des pigeons. Regardez d'abord sur Wayland et après. Enfin, ouais. Wayland volontairement.
Un dernier mot, n'achetez pas les boîtes d'armée à Noël de chez Games. Ne faites pas ça. Regardez ce qui se passe sur le marché de l'occasion. Je parlais des Blue Angels tout à l'heure. Ils font une Battle Force dans laquelle il n'y a aucune nouvelle référence.
Ouais, c'est que du vieux.
Voilà. Ça, c'est de la merde. Faut pas acheter ça. N'allez pas en boutique Games pour acheter des vieilles refs. Achetez que les nouvelles refs. Les anciennes. Tout ce qui est trouvable d'occasion, ne l'achetez pas neuf. Un Rhino, c'est pas la peine. N'allez pas chercher un Rhino, même si c'est un Rhino du chaos.
Ouais, surtout que le Rhino du chaos va être dans Conquest. Donc, pour 10€.
Voilà. Donc, faites quelques recherches croisées. Vous verrez qu'il y a possibilité de dépenser aller sur moins dessous.
Pour ce qui est Conquest, si vous voulez. Alors, c'est sûr, ça va être très très long. Mais. Ceux qui veulent faire une armée, ils ont largement du temps, donc 2-3 ans. Si vous voulez avoir la liste des trucs sur Conquest, vous allez sur le blog de Sales Figurines. Il a listé tous les. Alors, il doit avoir d'autres blogs, hein, mais c'est ma référence. Il est bien fait, il donne le ratio en thunes, etc. Vous avez vraiment le ratio. Et moi, je l'ai mis sur mon petit agenda Outlook, donc je sais exactement. Ce qui sort chaque semaine.
Ton agenda pro, tu veux dire.
Ouais, mon agenda pro, ouais. Ouais.
Bon, ouais. Premier rendez-vous de la semaine, je te le dis.
Ouais, là, c'est ça.
Comment
c'est marqué la semaine, c'est marqué bio. Alors, si je partage le l'agenda, en plus, quelqu'un qui va Biologus putrifia. C'est quoi ce rendez-vous? Mythique Blightaller. Bon, il avait eu rendez-vous avec cette personne. Donc voilà, donc voilà. J'enchaîne.
Prochaine chronique, est-ce que la figurine est un psychotrope?
C'est ça.
La prochaine. Je vais passer à la chronique suivante, à notre cher Kirou National, qui nous a fait une petite surprise. Je lui ai demandé de rien me dire voilà. Sur ce qu'était sa chronique. Il m'a juste dit de trouver un petit son, un petit générique. Donc voilà. Donc je laisse présenter, je laisse m'envoyer le générique.
Alors moi, c'est un peu plus préparé que Greg quand même, parce que je n'improvise pas aussi bien, et du coup, pour mon premier podcast, je vous propose de suivre ce soir la première enquête d'Inspecteur Kirou. Donc, qu'on soit joueur en club, tournoyeur ou bien joueur de garage, on s'est déjà tous fait cette réflexion. La qualité de peinture d'une figurine influence-t-elle les jets de dés du joueur qui la joue ? Vaste question, me direz-vous, qui mérite qu'on y réponde. En effet, il semble y avoir plusieurs points de vue sur le sujet. Des croyances mystiques diverses, des suppositions, des bruits de comptoir, mais personne n'a jamais creusé le sujet au final. J'ai donc mené quelques investigations pour vous, afin de connaître le fin mot de ce mystère. Lors du début de mon enquête, j'ai tout d'abord trouvé plusieurs indices qui tentent à prouver que non, le niveau de peinture n'influence aucunement les dés. En effet, un premier constat populaire est le suivant. Peu importe le niveau de peinture ou le temps investi dans une figurine, c'est toujours celle qu'on vient de terminer et dans laquelle on a mis le plus de cœur à l'ouvrage qui quitte en premier la table de jeu lors de la partie qui suit.
C'est ça, c'est vrai.
D'ailleurs, de nombreux traumatismes ont été constatés suite à des accidents du genre. Ainsi, un rapport de l'Association des établissements publics de santé mentale publié en 2017 affirme que 78% des joueurs admis en hôpital psychiatrique admettent avoir pété un plomb suite à un revers de ce type lors d'une partie.
C'est une vraie stat ?
C'est une vraie statistique.
Moi, je connais quelqu'un qui a lancé contre un mur.
Oui, tout à fait. Il n'y aurait donc pas, a priori, de rapport entre peinture et jet de dés.
Elles étaient bien pas, les figurines. C'est vrai.
Un autre élément tendrait à confirmer cette hypothèse. Si l'on remonte jusque dans les années 80, certains pourront peut-être témoigner, on retrouve depuis lors... trace d'une légende ludique qui soutiendrait que certains joueurs, souvent poilus, parviendraient à retourner des parties avec des figurines peintes en une demi-heure juste avant le game. Une technique à base de 3 couleurs plus la vie serait donc beaucoup plus efficace qu'une douzaine d'heures de concentration sur une pièce. Il n'y aurait alors aucune corrélation ici non plus entre niveau de peinture et réussite au dé.
C'est ce qu'on appelle le fluide, je confirme.
Après, il y en a qui ont la chatte. Hein.
Alors, je voudrais souligner que lors de mes investigations, j'ai spontanément été contacté par plusieurs joueurs qui souhaitaient témoigner anonymement sur le sujet. La plupart confirment la théorie du non, la plainture n'influence pas les dés. Ainsi, Antoine, prénom volontairement modifié pour préserver l'anonymat, nous confie. Alors, c'est pas trop drôle. Je pense que, sans vouloir me jeter des fleurs, j'atteins maintenant un bon niveau de peinture. Je commence même à gagner des prix en concours. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché de prendre des défaites toute une journée lorsque j'ai fait des initiations de Warcry à des débutants lors d'un salon. Vous savez, c'est parfois compliqué à encaisser. Pauvre Antoine.
Ouais, c'est vrai. Ah, on le plaint.
Je sais pas qui est ce Antoine S. Je
le tu sois.
Que, franchement, big up, mec. Big
voilà,
up.
Laissez un like pour Antoine.
Enfin.
Attends.
On a une pensée pour toi.
Non, je suis parti trop tôt.
Vas-y.
Enfin, dernier élément. Une enquête Ipsos 2018, commandée par l'Association des joueurs anonymes, sur l'état du jeu en Europe, nous révèle que 97% des prix peinture décernés lors des tournois, tous jeux confondus, Warhammer 40 000, Infinity, Blood Bowl, War Machine, et entre autres, ne sont pas décernés à des joueurs du top 10. Alors, lot de consolation ou preuve supplémentaire que les figurines bien peintes ne donnent pas de bon dé? Mais alors pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi certains joueurs de tournois, visant le podium, investissent-ils dans des peintres de talent pour c'est peindre vrai. Leurs figurines? Jugent-ils que leur peinture, que la peinture leur apportera le beau d'œil du dieu du jeu, et ainsi plus de chance au dé? Ou les dernières peintures contrastes de Games Workshop attireraient-elles les 6 sur les dés? La peinture n'était pas un vrai facteur de victoire? J'ai interrogé un grand joueur de Guild Ball, plusieurs fois champion de France et membre de l'équipe de France sur le sujet.
Qui s'appelle comment?
On va taire son nom.
On va taire son
nom. Ok.
Vous savez, à mon niveau, il faut mettre toutes les chances de son côté. Optimiser la win. Je pense qu'une belle paint m'aide à gagner des matchs. Je me sens bien avec mon terrain, mes belles figurines, mes dice. Ça me permet de me libérer l'esprit et surtout le poignet. Et ainsi d'avoir une meilleure réussite au dé. Donc oui, une belle peinture améliore la réussite au dé. Au moins autant que les trainings et la prep mentale. Alors, un élément supplémentaire en faveur du oui nous vient d'une étude scientifique menée par un groupe de chercheurs de l'université de Nottingham, dirigée par le professeur McQueen. Cette étude, très récente, publiée en novembre 2019, a étudié sur plusieurs mois l'impact des peintures contraste de Games Workshop sur les résultats d'armée dans différents tournois internationaux, type ETC Warhammer 40 000 ou World Cup de Blood Bowl, par exemple. Mais également sur le résultat de campagnes narratives dans différents clubs européens. Les résultats de cette recherche sont édifiants. Il semblerait que les joueurs ayant des figurines peintes avec la nouvelle perle de Games Workshop soient plus prompts à réaliser des victoires, peu importe l'enjeu des parties. Nul doute que cette nouvelle formule vaille son prix de ce fait.
Oui,
surtout la rouge.
Ouais. Ouais.
Enfin...
Ah oui, ça va plus vite, la rouge.
Eh oui.
Vas-y.
Enfin, des ethnographes ont constaté dernièrement la création... Oui, donc des ethnographes qui font de l'ethnographie, donc c'est des chercheurs en sciences sociales qui observent sur le terrain les différentes
c'est
cultures, etc.
Soit éduqués.
Non, ethnographes. Il y a ethnologie et ethnographie.
Ah ouais.
Donc on constatait... on constatait dernièrement la création de confréries de peintres de bon niveau. Des joueurs qui se rassemblent et vouent un culte à la peinture de figurines. Des associations, pour ne pas dire sectes, persuadées que la peinture influence les dés lors des parties.
Tu veux vraiment pas ça.
Ainsi, des observateurs indépendants auraient constaté un peu partout sur le continent des sacrifices de pinceaux Winsor & Newton 9, de peaux de Tamiya X27, d'aérographes Harder & Steinbeck et de pigments MIG en offrande au dieu de la peinture et de la Chagat, le surnommé Si bien pince à gagne. De nouvelles pratiques donc, qui nous portent à penser que peinture et dés ne font qu'un. Que gagne et full pain vont de pair, du moins dans l'imaginaire collectif des joueurs. Difficile à la vue de ces différents éléments, croyances ou pratiques, de conclure catégoriquement si oui ou non le niveau de peinture d'une figurine influence sa réussite en jeu. Ce qui est sûr, c'est que peu importe le niveau de la réalisation, si une figurine est peinte,
alors elle est peinte. Évidence, me direz-vous. Mais de ce fait, celle-ci mérite toute sa place sur une table. Et alors, peu importe le résultat du dé, car il y a le jeu. À bientôt pour une nouvelle enquête d'inspecteur Kirou.
Merci Kirou, et on laisse donc l'inspecteur Kirou rentrer chez lui. Bien merci Kirou. Donc, ouais.
Moi j'aurais une petite question, mais c'est bien joué l'enquête, etc. Mais toi Kirou, personnellement, où va ta foi? Que crois-tu?
Alors moi je vais rester absolument indépendant étant donné que j'ai mené l'enquête, mais je pense que je vais pas donner mon avis, je vais plutôt attendre un peu peut-être vos remarques. Vous êtes plutôt secte, secte sacrifice.
Moi je serais plutôt pour dire que peindre c'est plus important que gagner. Quand on voit notre dernière partie de Nécronome d'A2, on est bien peint.
On est potentiellement d'accord là-dessus. On était très bien peint et on a fait que des.
Alors moi je vais témoigner avec mon armée de Nurgle. Alors je fais plein de jets super, hein, mais je ne gagne pas.
Mais tu fais plein de jets super. Donc
oui. Alors, est-ce qu'il est full peint? Pas vraiment. Moi j'ai déjà pensé à carrément buter des figurines qui étaient peintes et qui faisaient de la merde. J'ai déjà pensé à leur couper la tête avec la pince coupante. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que
peut-être que ça conjurerait le sort.
Ça coûte un peu cher. Greg m'a déjà vu faire des incantations avant de lancer mes dés. Ouais, non, je sais pas. Moi, je pense plutôt que tu vois la chance, c'est un fluide que t'as en toi ou que t'as pas. Rien à voir avec la peinture. Je pense que t'as le mood ou t'as le. Alors, bien sûr, il y a des facteurs aggravants.
Je dirais
que si t'es pas peint, si t'as passé une mauvaise journée, si t'es mauvaise humeur, si t'aimes pas Derek, bah je pense que ça peut jouer contre toi. Tu vois,
Et
si t'as mangé de la raclette, par contre.
Oui, avec ta figurine. Ouais.
Tu vois, t'es dans un bon mood, t'as mangé de la raclette, c'est Noël.
Ça, c'est parce que tu joues
Nurgle. Ça, c'est le rôle player girl.
Moi, je me souviens d'une époque légendaire quand même, c'était au Marie-Louise des Flandres, où il y avait un type qui jouait à moitié peint, et on incantait en fait son prénom sur les dés. Parce qu'il avait une chatte extraordinaire. Il s'appelait Kirou.
Ah oui.
Et c'était à Dystopia North. Et ce monsieur a réussi à faire un 24 succès sur de la relance sur du 6 avec un seul dé.
C'est-à-dire que tu relances, tu relances.
Non, c'était pas 24. Hein.
Non, 21.
Ouais.
C'était 21. On était dans la vingtaine.
C'était explosif en même temps.
6 puissance 21, c'est combien s'il vous plaît?
Non. Dystopia 6 sur relance.
Il a fait 21 fois.
Il a fait 21 succès. Il a fait le succès initial. Ah non, attends. Je sais plus.
On avait passé à 25.
Était à 20. On était à 20.
Et alors, j'ai relancé 6 cette fois le dé.
Faut imaginer une dernière partie de campagne.
Et donc, du coup, tes figurines, elles n'étaient pas complètement peintes.
Pas tout à fait peintes. Mais alors, on aurait dû noter quelle figurine faisait ce tir. Et je pense que c'était une
figurine. Je t'invite à faire des stats.
C'était la forteresse anglaise à Dystopia
Noir. Je vous invite à faire des stats. À relever tes stats,
c'est ça, exactement.
Et voir.
Relever vos stats, figurines peintes, voilà. Jet de dés.
Bon, en tout cas, merci.
Sur des petits jeux. Peut-être pas.
Vous pouvez essayer chez vous. Essayez, parce que l'incantation, c'était la chatte à Kirou. Et
on a trop absorbé la chatte à Kirou.
Au millénaire dernier, quand je faisais encore des tournois, je jouais.
Millénaire dernier, t'as fait des tournois de War Machine et arrête.
Oui, non, mais justement, j'ai continué. Mais ceux du millénaire dernier, je les ai tous gagnés en full pain. Et beaucoup d'adversaires n'étaient pas du tout peints.
Ah, ça c'est
gagné mes tournois avec mon armée. Ouais,
mais c'est assez rare.
Ça donne beaucoup plus de satisfaction quand tu gagnes.
Et les mecs étaient embarrassés, pris de peinture au premier prix. Donc, ça remonte aux années 90.
Vous pouvez donner les deux
après. Non, ils ne donnaient pas les deux, les mecs. Tu sais, c'est une époque où on n'avait pas d'email, mais on devait envoyer des courriers aux mecs qui faisaient les tournois. Donc on était quand même pas. On était plutôt champion du quartier que champion de France. Hein, ouais, c'était quoi la dimension.
Alors, qui au soir de Desmoniac.
Super Desmo.
Un gros peintre d'ailleurs.
Très bon peintre.
Oui. Alors, donc, c'est pas gentil de parler de son poids.
Et sinon, aujourd'hui, je pense que l'armée full peinte, même avec toute la foi que tu peux mettre dedans. Ça te permet pas d'avoir des bons jets de dés, par contre, ça te permet à celui qui est en face, éclate la tête, d'avoir au moins une compensation graphique, de dire il va défoncer, mais au moins c'est pas moche.
Non, mais le mieux c'est de défoncer le mec.
C'est plus une qu'une manière.
Non, mais je trouve que le plus satisfaisant, c'est que t'es full peint, tu défonces le mec qui est pas peint, et là tu reviens,
Ça arrive pas.
Non, ça n'arrive pas.
Ah, j'ai vraiment craché. Il
n'y a pas de statistiques.
Quoi, ça arrive pas.
Si, je l'ai fait une fois à War Machine. Tu parles de War Machine.
Ah ouais, War Machine, tu l'as fait une fois.
Je l'ai fait une fois contre un mec de la team officielle belge. Il est venu en. Il n'y avait rien de peint. Sauf son Molly Karn, si je dis pas de bêtises.
Oui, il jouait Scorn, ouais.
Il jouait Scorn.
Bon, t'avais l'habitude de jouer Scorn en même temps.
J'avais l'habitude de jouer contre du Scorn, c'était assez l'armée. Ouais. Je jouais contre toi, voilà. C'est bon à ce jeu, donc voilà. Et je lui ai fait la combo main droite, main gauche. En fait, c'est une armée que personne ne jouait. Je jouais trois le bout dans la version trop lolo.
Attention, 5 minutes de si les Trollblood n'étaient pas là.
Non, chante pas, on va tout faire un peu.
Nous serions tous sans Scornery.
C'est une petite chanson, ça. C'est une petite générique. Donc, bref, et lui, il a perdu. Il a perdu, mais bien perdu.
Ah ouais, tu l'as vraiment défoncé. Ouais. Et ça, c'est satisfaisant, je trouve.
Bah, il était tellement humilié, j'étais pas bien pour lui parce que son capitaine d'équipe est venu le voir pour lui mettre une putain de dragée. Et moi, j'étais même pas en mode. Enfin,
c'est vrai que War Machine, c'était quand même un jeu de figurines de bonhomme, quand même. Il y avait une ambiance un peu.
Il y avait quand même un côté je gagne, donc j'ai de la testostérone, donc je suis un vrai mâle. Il y a un côté comme ça, en fait, hein, qui devient à la fin vraiment
un jeu de fille, quoi.
Enfin, voilà, quoi, c'est entre ça et le curling, tu pousses des bonhommes, quoi.
On parle des socles où il n'y avait pas de figurines dessus.
Alors, ça fait l'objet d'une...
Ça, on en a déjà parlé.
On en a déjà parlé, on ne l'a pas enregistré.
Mais c'est vrai que c'était...
Ça viendra. Ouais. Du coup, je vais couper court à le pain, non pain.
Je me permets juste une dernière chose. Laisse-moi dire que tu es l'élu parce que tu avais une chance sur... 21 millions de milliards de faire ce 21 x 6.
Ah ouais, c'est pas mal.
Donc franchement.
Mais ouais, bah depuis ce jour-là, par contre, c'est fini. Ouais,
c'est fini. T'as dit que
c'est terminé.
Ouais, t'as ouvert une faille spatio-temporelle.
Bon, alors maintenant. Maintenant, on passe dernière chronique. Donc, sur le jeu narratif, je vais laisser Pierre. Là, c'est vraiment la chronique un peu, pas centrale, mais...
Merci, c'est du coup, on pue la merde.
Si, on pue pas la merde.
Allez, à la fin.
C'est un peu la météo du podcast, quoi. C'est qu'on peut pas éliminer.
C'est les petites chroniques. Là, on est dans le cœur.
C'est une toute petite chronique, en fait, elle est courte. Alors, ça fait longtemps que j'y pense, en fait. Je savais pas sous quelle forme la matérialiser. Puis, en fait, ce qui est cool, c'est que, voilà, le format podcast est vraiment adapté. Jouer narratif, on va parler, voilà, du jeu narratif. Donc c'est une orientation à la forge ludique. Alors j'ai envie de dire pourquoi, comment, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là. Déjà je vais faire un petit historique. Bah, on va parler de la figurine. Voilà, la figurine, elle possède le pouvoir de matérialiser tout ce que propose l'histoire avec un grand H, la littérature, le cinéma, la bande dessinée et même le jeu vidéo.
On n'est plus. T'enregistres encore
ou pas ?
Je recommence.
Bah, c'est pas grave. L'enregistrement est bon, mais c'était le live qui était.
On reprend
depuis le début.
Donc tu nous parlais du jeu narratif, c'est ça, c'est bon. On est en live là. Ok, merci. Désolé, c'est.
C'est reparti.
Ce genre d'exercice.
Ça fonctionnait bien.
J'ai tout répété.
Voilà, je recommence. 1, 2, 3.
Vas-y.
Jouer narratif, une orientation à la forge. La figurine. La figurine possède le pouvoir de matérialiser tout ce que propose l'histoire avec un grand H, la littérature, le cinéma, la bande dessinée et même le jeu vidéo. Avec sa capacité de simuler des actions tout en représentant un environnement reconnaissable, la figurine génère encore une fascination chez les vieux briscards, mais aussi chez les plus jeunes. En cherchant la définition du jeu de figurine, un nouveau joueur tombera sur l'histoire du wargame, l'aspect tactique d'escarmouche, voire d'affrontement de grandes armées, retraçant des événements historiques, mythologiques, voire entièrement fictifs, mais toujours en stimulant la mémoire ainsi que l'imaginaire. On notera déjà ici la portée narrative qu'on peut trouver à se raconter de grandes batailles épiques. Le Seigneur des Anneaux fut par exemple une grande source d'inspiration pour Gary Gygax, créateur du premier jeu de figurines narratif où l'on représente un personnage par une figurine unique, contrairement au wargame. Et là, je parle de Chainmail, qui est l'ancêtre du jeu de rôle Donjons et Dragons. Alors, trêve de digression, revenons un petit peu à l'actualité. Le nouveau joueur d'aujourd'hui aura de grandes chances de tomber sur des influenceurs très présents sur le net, en France, Commander TV ou French Wargame Studio, pour ne pas le citer.
On lui proposera de participer physiquement à des rencontres, des tournois. L'émulation créée par ces événements est bien réelle. On y valorise le défi tactique d'un jeu parfois exigeant techniquement, mêlant une subtile alchimie entre anticipation, maîtrise des règles et, il faut le dire, de chance. On vient d'en parler. Du côté de la forge ludique, nous avons marqué notre volonté de sortir du cadre du jeu compétitif. L'aspect narratif entre en opposition totale avec ce type de jeu. Car avec toute la puissance d'évocation contenue dans ces petits bouts de métal, de résine ou de plastique, tout le temps et tout l'amour qu'on y met, décidément, le jeu figurine, ça ne peut pas être comparé aux échecs. J'en reparlerai dans une autre chronique si vous me le permettez. Qu'on soit bien clair, il ne s'agit pas ici d'une critique envers les adeptes du tournoi, c'est juste que le cadre narratif d'une partie nous apporte davantage de satisfaction. Un modélisme prolifique au service d'une ambiance de jeu, la stimulation constante de l'imaginaire, de l'interactivité, de la convivialité, raconter l'histoire avec un grand H, des histoires aussi, sortir de l'affrontement pour jouer ensemble. Et alors là, je vais finir avec une question, parce que c'est ça le but de la chronique. Vous, comment est-ce que vous faites pour faire vivre vos parties?
Je vais commencer.
Alors lui, il pète quand il joue dehors, déjà.
Alors,
c'est purement narratif.
Comment je fais pour faire vivre les parties? Parce que bon, sans me lancer des fleurs, c'est moi qui anime la campagne 40 000 sur à la forge. En fait, l'idée, c'est de pas jouer, de s'approprier le contexte que Games a créé. Games, pour citer que vraiment 40 000, a créé un bac à sable dans lequel tu peux t'épanouir. Si tu peux très bien prendre les livres de qui existent de campagne et faire la campagne, c'est sympa, mais pour moi, c'est pas du jeu narratif. Tu racontes leur histoire, tu racontes pas ton histoire. Si tu veux raconter ton histoire, il va falloir te creuser les méninges et ça demande énormément de travail. C'est pas simple. Mais moi, en tout cas, je l'imagine comme un film. C'est-à-dire qu'un film, je le construis avec un début, une intro, on monte crescendo, on a le paroxysme et ça redescend. Et tout ce que je crée au niveau ludique, que ce soit les scénarios de jeux de rôle ou quoi, c'est toujours comme ça. J'ai toujours ce leitmotiv. Que les gens se fassent pas chier, en fait. Ils soient spectateurs du film, mais en même temps acteurs. Et donc... C'est pour ça aussi que j'ai fait les petites vidéos de fluff 40 000. Aussi pour mettre des images, parce que l'image, c'est hyper important d'animer le contenu narratif avec du visuel, du palpable, des éléments de jeu, pour éviter qu'on soit que dans le très lointain. Voilà. Donc il y a plein de trucs. Il faut pas se borner aux règles, en fait. Le truc, c'est qu'on a trop tendance à dire buy the book et basta. Et ben non, fuck le book, quoi. Fuck le book. Enfin, pas le fuck le book. Donc on s'en fout des règles qu'il y a dans le livre. Les joueurs là qui font 40 000, il y en a à qui ça plaît moyen. C'est vrai que des fois les scénarios sont pas super équilibrés, mais on joue l'histoire, donc c'est tout. Quand j'écris un scénario, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les Eldar, ils ont pénétré les hautes spires de la ruche, ils doivent trouver une relique d'archéotechnologie, parce qu'ils savent qu'elle est planquée là, ils vont dans un musée, c'est un endroit confiné, donc ils ont joué sur une dalle Necromunda à 40 000, c'est pas fait pour. Et ben, ils ont joué quand même, et bon, alors oui, effectivement, c'était compliqué.
Ils ont fait mouvement.
Ouais, voilà. Ça a été super compliqué. Après, de temps en temps, Pyrrhus Prime, là où ça se passe la campagne, il y a des tempêtes war. Donc, de temps en temps, je balance des boulettes de papier sur la table et je dis, ça, c'est un orage war. Donc, si t'es à côté, un des trois blessures mortelles, voilà. J'invente vite fait les règles. Et alors, cette idée narrative, elle est venue avec beaucoup de discussions avec Greg. Qui m'a dit à un moment, moi j'imaginais la campagne, je me creusais la tête, on fait des règles avec des hexagones, on se déplace. Il dit, mais arrête avec les règles, arrête. C'est quoi le but du jeu? C'est de raconter l'histoire. Fais un truc comme un jeu de rôle. T'es maître de jeu et tu fais ce que tu veux. Et à partir de ce moment-là, crac, c'était lancé, quoi.
Là, t'as été enfin décloisonné.
Voilà, c'est ça. Mais je m'étais mis effectivement des cloisons en disant attention, il y a des règles, il faut pas que je déséquilibre. Mais non, en fait, il n'y a pas besoin que ce soit équilibré.
Tu l'improvises, tu trouveras forcément une faille. Tu vois bien, ouais. Toute l'ingénierie de Games fournie sur une création de règles, ils pondent des trucs, ils pondent 600 pages de règles fluff, les mecs, il y a forcément des putains de trous dans la raquette. Toi, tout seul, du haut de ton crayon, il y a un moment, tu vas forcément écrire de la merde. À partir du moment où il est au service d'une narration, t'as toute forme d'excuse. Quand tu dis le scénario, c'était les Space Marines de Amos, je crois, c'est ça, c'est ouais. Les Space Marines, plutôt ultramarines.
Sans vouloir lui jeter la pierre. Hein.
Non, mais peu importe. Mais la configuration du scénario faisait que tu dis au type, écoute, ton objectif aujourd'hui, c'est pas de prendre six objectifs sur une table d'1m20 par 1m80 et de poser ton cul dessus et de camper, c'est d'aller chercher, c'est de défendre un musée. Je suis désolé, moi ça me raconte tout de suite plus de choses que ok, il y a 6 objectifs, j'ai pas réussi à prendre l'objectif numéro 3. La narration, ça démarre par ça. C'est pas une finalité, mais c'est le préambule.
C'est ça.
Voilà. C'est le préambule. C'est je raconte une histoire. Je suis pas dans une dynamique métrique. Dès que t'es dans du métrique, bah, ok, tel véhicule c'est de la merde, il coûte trop cher par rapport à celui-là, qui balance plus de dés. Ça, c'est un calcul crado. C'est, en fait, si je devais faire un parallèle sur une narration, c'est quand t'allumes ton PC, à quoi t'as envie de jouer ? Bah, moi, je préfère jouer à Skyrim et puis voir des putains d'étendues, un truc qui me raconte quelque chose, qui va m'imprégner.
Il y a une faiblesse dans l'œil, là, il y a entendu Skyrim.
Ou il va y avoir une musique qui va me transcender, ou je vais être imprégné et je vais être absorbé par l'écran. Et à côté de ça, je peux très bien allumer mon PC et puis dire, ok, ben, je fais. À quoi il joue mon gamin, là ? Il est accro à.
Fortnite.
À Fortnite. Voilà. Il est accro à Fortnite. Bah, ça, il n'y a pas d'histoire.
Ce qui est très amusant,
c'est Fortnite, c'est de la merde.
Si vous faites une recherche, notamment en parallèle sur le jeu de rôle, parce qu'en fait, il y a les mêmes questionnements sur le jeu de rôle, puisque le jeu de rôle qui vient du jeu de figurines, Chainmail, c'est ce qu'on appelle le jeu procédural, en fait. C'est qu'en fait, les joueurs vont juste répondre à des situations problèmes, ils vont adapter en fait leur attitude dessus, mais il n'y a pas de réelle histoire racontée. C'est un peu comme le jeu de loi, quoi. Réagit une situation.
Ah, c'est ça,
des échecs. Voilà. Alors, sachant que le gros travers dans le jeu compétitif, ça va être même de choisir sa liste en fonction uniquement d'une procédure à suivre et qu'on est sorti de l'univers. Finalement, l'univers n'a plus
intérêt. En fait,
tu vas prendre en compte.
Mais du coup, tu vois, moi je m'interroge mais super régulièrement et je me fais traiter super régulièrement. En fait, je joue le gros troll, je vais régulièrement sur les chats.
Les gens de jouer comme ils veulent.
Voilà, ouais, moi j'empêche pas les gens.
C'est un choix après.
Mais, il s'agit pas
choix,
de ça.
Mais je veux pas empêcher les gens de jouer tournoi. Mais à un moment, je pose la question à ceux qui disent ça, cette figurine, tu la jettes. Ça, c'est de la merde. Ça sert à rien. Je leur pose la question. Pourquoi
le gomalette.
Pourquoi putain, tu es venu faire
ma figurine. Gomalette, je suis là, hein, les mecs. Hein.
Oui, c'est ouais, le
gomalette.
Ouais, arrête de casser ça, il y a Greg qui est derrière.
Il y a
5 balles, il exhibite 5 balles.
Il y a tant. Mais je pose la question. Donc il y a tant le.
J'attends les nouvelles mises à jour pour que tout le monde revende. Ouais,
attends, je mets le petit générique.
En fait, t'as qu'à attendre le nerf Blood Angel. Alors, t'as acheté une armée d'anges de la mort.
Ouais.
Il sort dans quelques mois.
Mais là, il vend.
Voilà. En gros, ton lot va prendre de la valeur énormément.
Je sais pas,
à ce moment-là.
C'est un putain de Saoudien qui achète des actions. Avec...
Et d'ici quoi, faut le vendre avant 2 semaines après la sortie du codex. Parce que sinon, là, hop, ça va rechuter.
Ça, c'est pas très narratif.
Alors, donc,
Dru, tu fais comment ?
J'en finis. Attends.
Comment toi, tu fais ?
Parce que c'est vrai que toi, il faut que tu racontes quand même comment t'as créé ton armée de gardes impériales, même si. Il y a d'autres possibilités sur de la garde impériale et je pense que c'est l'armée qui peut être la plus fluff de ce putain de jeu.
Oui.
Mais il faut dire quand même ce que tu as mis sur les socles de tes figurines.
En fait, je joue garde impériale, donc c'est les soldats de base. C'est l'humain qui va mourir comme une merde à 2 minutes après le début de la bataille, parce que c'est un humain et qu'en face c'est un super soldat. Et en fait, j'aligne quelque chose comme une centaine de ces gars-là, et en fait chacun a un nom. Et je leur ai collé sur le socle, et du coup, quand il va dans la mallette, bah en fait, c'est pas un petit jeton qui meurt, c'est le lieutenant Gorkin von Strammel, et
bah, il meurt. Strammel.
Est-ce qu'à chaque fois qu'il meurt, tu leur changes le nom ? Non.
Non. Bah quand même, faut pas exagérer, c'est le fils en fait.
Ça a pris un peu de temps.
Qui vont petit chou.
Et tu sais pas s'ils meurent, ils sont peut-être juste blessés.
Ouais,
c'est vrai que se prendre un coup de dash de berserk de corne, tu meurs pas forcément.
C'est vrai que ce serait horrible par un démon de corne.
Je veux dire, un Plague Marines qui te crache dessus du vomi, bon bah tu peux t'en sortir. Il restera pas grand chose de toi, mais voilà. Mais moi, en fait, la question que je pose aux gens qui font de la figurine en se disant non, mais tu vois, ça c'est pas fort, ou je fais mon armée comme ci, comme ça. Je dis, mais le premier truc qui t'a motivé à venir dans ce jeu, n'importe quel jeu, hein, ça s'applique à tous les jeux, c'est quand même la gueule des figurines. Je pense quand même un petit peu l'histoire de l'armée. Parce que quand tu vas à 40 000 ou War Machine ou Infinity, tu vas pas choisir. Enfin, il y en a qui choisissent la faction parce qu'ils sont forts. Mais quand même, globalement, t'as une plus d'acquaintance pour tel ou tel truc. Donc je me dis, putain, mais merde, quoi. Si tu vas juste. Bah, prendre. Après, il y en a hein, qui le font. Mais je trouve que ça rend pas honneur au hobby qu'on pratique, d'une part. Et d'autre part, je pense que c'est. Moi, je suis très alarmiste, mais je pense que c'est la mort du jeu, quoi. Au final, après, on aura.
On l'a vu, hein. T'es pas alarmiste. Hein. Il y a des jeux qui sont morts. Enfin, qui sont morts. Il reste le noyau extrêmement dur de l'ultra compétitif. Mais aujourd'hui, enfin, tu peux téléphoner chez. Je sais pas s'appelle, le distributeur de War Machine français.
Victoria Games.
Tu peux l'appeler. Le mec, il a 300 000 boules de matos dans un hangar. Il sait pas quoi en foutre. Voilà. Il n'y a plus personne. Hein.
Et pourtant. On rappelle quand même que War Machine, c'était pas compétitif. C'est issu d'un jeu de rôle. La M15, c'était du vrai narratif. Parce qu'une fois, j'ai discuté avec un mec qui me dit mais non, ça a toujours été un jeu compétitif. Non, c'est faux. Ça n'a jamais été un jeu compétitif.
Desmo, il dit qu'il joue que peint et il peint que ce qui lui plaît. Et il s'en fout si c'est pas optimisé.
Exactement. Ah ben voilà, yes. ça c'est un bon.
Non mais alors, je voudrais juste apporter une petite nuance là-dessus. En fait, pour moi, c'est pas forcément en opposition.
Non.
Enfin, je veux dire, on a l'impression là que le narratif, c'est forcément en opposition avec l'optimisé. Mais je suis pas forcément d'accord. Alors, je dis pas que je joue optimisé, que je joue tout le temps narratif. C'est-à-dire que il m'arrive d'aller à des tournois qui sont pas narratifs et je m'amuse bien et je fais des parties à la forge qui sont narratives et je m'éclate aussi. Mais après, c'est une perception du joueur. En fait, c'est un curseur que tu mets et tu peux très bien faire une partie. Ouais. À fond narratif avec une liste qui est hyper optimisée et ça n'empêche pas de te raconter une histoire avec une liste optimisée en fait. C'est juste que il faut réussir à raccrocher du narratif sur toutes les parties qu'on joue en fait.
Et puis le narratif c'est pas l'excuse aux mauvais joueurs.
Après je
prends. C'est vrai que
d'ailleurs c'est important parce que c'est un truc aussi à la forge. On s'est parfois nous-mêmes pris au piège. C'est arrivé récemment en fait d'arriver sur un jeu comme Frostgrave. On a une optique ultra narrative sur des scénarios.
C'était ça l'attendu. C'était
voilà.
Pas bien...
Et en fait, effectivement, on reste parfois quand même dans le challenge tactique. Et Necromunda, c'est pareil. Hein, c'est un jeu ultra narratif. Je pense que là, pour l'instant, c'est un des plus détaillés d'ailleurs. Ouais, même terme. C'est limite du jeu de rôle, hein, Necromunda. Hein, avec le système d'expérience. Necromunda.
Ouais, Necromunda. C'est pas dit, c'est pas grave. Hein.
Non, je parle de Necromunda.
Ouais, d'accord. Ouais,
Necromunda,
ouais.
C'est un jeu développé avec un personnage qui possède un nom, une destinée, une expérience.
Enfin, il crève vite quand même.
Bah, pas tant que ça. Non, ils sont amputés, ils leur manquent un œil, etc. Ouais.
Du coup, effectivement, la règle te fait raconter quelque chose.
La règle te fait raconter quelque chose, et il y a une continuité, et il y a même un enjeu, et parfois on va abandonner une partie et la perdre parce qu'on souhaite sauver un personnage.
C'est ce que j'ai inclus.
Mais parfois, on est tenté de sortir un putain de lance-plasma qui défonce tout, exactement. Mais on peut le justifier dans le narratif.
Et on peut le justifier dans le narratif, exactement.
Mais tu vois, par rapport au stopper. Le game sur 40 000, par exemple, on a inclus ça, on a inclus des chefs et certaines unités qui peuvent prendre de l'XP en disant attends, moi j'ai. Et ça, je pense que tout. C'est long, hein, c'est un long processus, tout le monde ne l'a pas intégré. Moi j'ai arrêté, je crois, 3 ou 4 parties. J'ai dit stop, j'arrête, j'ai trop perdu, je préfère me retirer. Par contre, je me retire dans la cité rouge. En l'occurrence, je jouais contre Dru, qui jouait sa garde, ils étaient en train de me battre et j'ai dit c'est mort. Donc ok, je me replie dans la cité rouge et je vais vous tendre une embuscade. Et la semaine suivante, on a fait l'embuscade, ça a fonctionné plus facilement pour moi. Et enfin voilà, et on a développé un arc narratif autour de ça. Maintenant, effectivement, je suis d'accord avec toi, Kirou, tu vois, je ne mets pas en opposition, parce que c'est vrai qu'Infinity a le bénéfice, cette matrice de règles a le bénéfice d'être simple, très efficace, très précise, qui te permet de raconter vraiment des histoires. Le fleuve du jeu, il est vraiment bien.
Tu ne vas pas tomber dans les extrêmes que certains jeux de chez Games sur Infinity.
Il y a des trucs qui sont un peu plus forts. Après, je suis pas hyper expert, mais on sent quand même que tu peux te sortir l'épingle du jeu en te faisant une petite liste en disant bon, ok,
Voilà. Ce que je reproche au jeu.
Mais après, c'est un jeu d'escarmouche, donc c'est encore différent.
Ce que je reproche
au jeu. Même si
ça peut
être un jeu très compétitif et très poussé tactiquement, c'est un jeu d'escarmouche. Donc à partir du moment où tu as 15 figues max sur la table, tu te racontes forcément plus facilement une histoire, je pense, à mon point de vue. Tu t'identifies mieux à tes figurines et à ce que tu joues que si tu as. Après, c'est le contre-exemple, mais que si tu as 100 pimpins sur ta table et qu'ils n'ont pas tous un nom.
Au-delà de la question de ouais, ils ont tous un nom, je trouve que jouer Fluff avec la garde impériale et. En fait, dans Warhammer 40 000, la plupart des nouvelles, c'est tout simplement un point de vue humain, un point de vue basique, et l'humain qui meurt. C'est limite. Enfin voilà, c'est un narrateur insignifiant qui meurt derrière. Donc en soi, avoir un personnage qui est presque anonyme. Pour narrer la bataille qui se passe autour, finalement, c'est incohérent pas si... avec le monde.
De toute façon, tous les comptes rendus que je vois des gens qui jouent à 40 000 sur la campagne, là, à chaque fois, ils se mettent à niveau de hauteur d'homme, quoi. C'est-à-dire, chacun raconte.
Mais ça, d'ailleurs, c'est peut-être. Je suis de loin là. Ouais, pas 40 000, c'est peut-être un peu dommage. Après, je lis pas forcément tous les comptes rendus, mais.
Ouais.
Je sais pas s'il y a un joueur tyrannique, par exemple.
Il y a un joueur culte Gensler.
Ouais, culte Gensler, mais ça. Pour être marrant, après je sais pas comment ils rédigent ces comptes rendus, mais qui prennent carrément pas un point de vue humain, justement. Qui rédige, enfin, je sais que j'avais fait une campagne 40 000 où je jouais orc, bah c'était peut-être dur à lire, mais tous mes comptes rendus, je faisais comme si c'était un bolos orc qui parlait,
ouais.
Parce qu'en fait, tu rentres
pas, bah, si,
peut-être
qu'ils
le font, hein.
Si, y a
mais c'est ça
qui l'a fait niveau Eldar, tu
voilà,
vois,
c'est ça qui est intéressant à faire aussi dans une campagne, parce que c'est bien de faire un compte rendu, d'avoir un putain de scénar narratif et tout. Mais si tu fais un retour qui, en lui, est encore plus narratif limite que le reste,
mais
bah
mais
c'est là que tu rentres.
Je te rejoins sur le fait que.
Pardon, je vous coupe, je tiens à faire une petite parenthèse parce qu'on nous avait fait la remarque en fait, sur Radio Campus. On a un suivi de campagne, mais il est sur le forum. Donc j'invite tous les gens qui s'intéressent à l'aspect narratif à aller venir lire les comptes rendus parce qu'on ne les publie pas.
Planet Wargame, tu nous entends.
Ils sont sur le forum. Voilà, c'était la parenthèse.
Après, rien n'empêche à la fin de la campagne, si arrive, je ne sais pas quand. De faire un article sur le blog avec tous les liens des comptes rendus pour essayer de centraliser.
Si je peux faire la voix de Francis aussi.
Bon, ça, on peut publier les comptes rendus sur le blog peu à peu, finalement.
Ça sera moins indigeste. Tu peux poster un compte rendu, ça sera vachement bien.
Oui.
Ce qui est quand même bon pour moi dans cet aspect, dans l'aspect narratif, c'est que. Bon, après, on peut parler de ce qu'on va mettre à l'intérieur comme armée. C'est au-delà de son pareil, qui je pose sur le champ de bataille. C'est que tu racontes une histoire. Et une histoire, cette histoire, elle est racontée pas par une personne. Même si on a un narrateur en chef, cette narration, en fait, chaque joueur s'en est emparé. Donc, c'est ça la force pour moi, en fait, de ce type de campagne, de type de partie, c'est avant tout de te raconter une histoire. Enfin, moi, je vois ce que produit, justement, on vient de le dire, Planet Wargame au niveau narratif. C'est quand même quelque chose d'extrêmement fort. Il n'y a pas les jets de dés, leur armée, on ne sait pas au même point. Et pourtant, ça reste hyper passionnant. C'est vraiment hyper intéressant comme contenu. Enfin, t'es absorbé.
Et aussi en vidéo.
Ouais, non mais. Après, voilà, c'est juste du temps, de la volonté. Surtout du temps, en fait.
C'est du temps.
Cette dynamique qui a été impulsée sur la campagne, ça porte un italien. Les lions de Sanctarcus.
Les lions de Sanctarcus.
Et l'inquisiteur.
Le destin de.
Je trouve ça.
Des Minetti.
La famille des inquisiteurs.
Ça, c'est.
Passage.
Je trouve que c'est.
Ouais,
trouve,
c'est super.
Je trouve que c'est très bon parce que ça prend du coup à contre-pied. Ça offre une facette au hobby. Bon, après, c'est des fanboys de 40 000 comme nous. Mais ça offre une facette au contenu narratif, au jeu de garage, hein, parce qu'a priori, je pense qu'ils sont que deux. Ils jouent dans leur coin et puis ils font l'institution. Qui est génial en fait, c'est vraiment génial. C'est ça qu'il faut vraiment promouvoir. Pourquoi ? Parce que t'es venu à la figurine pour ça en fait. Tu peux pas me dire, ouais, je suis venu là pour être champion du monde de curling quoi. On s'en fout.
De pile ou face.
Oh, on arrête de dénigrer le curling, ça fait deux fois.
Ouais,
du pinball.
Pas sur la pétanque.
Pas du
pinball.
La
pétanque.
Du pinball.
Non,
mais
je veux dire, ça a pas de résonance, tu vois. Combien de fois moi en tournoi j'ai passé des mauvais moments. Alors j'ai fait des belles rencontres. J'ai passé des moments vraiment dégueulasses. Le mec triche ouvertement, il mesure pas comme il faut, il a un caractère de merde, il est quasiment insultant avec ce que je fais.
Après, t'as pas besoin de voir pour rencontrer ça encore une fois.
Mais... Ouais. Ouais, après. Bah,
c'est quand même plus rare.
Après, honnêtement, de... je vais dire, les tournois qui sortaient de mon environnement connu avaient forcément une partie dégueulasse, en fait, ou en tout cas pas agréable. Voilà. Je vois par exemple, pour parler d'un gros compétiteur qui est Commander TV, il est revenu d'une compétition, il fait une mauvaise partie tout hop en entrée de gamme. Et tout son tournoi qui suit derrière, c'est de la merde. Il était dans un bad mood, il n'y avait plus le mojo, il a fait un putain de déplacement, il a mis de la thune là-dedans. Enfin, t'as envie de dire, ah ouais, putain, ça n'a même pas envie. Pourtant, moi, il reste passionné par ce qu'il fait. Et il le fait très bien. Mais tu sens qu'un tournoi, ça peut ressembler à une cassolette comme ça, quoi. Mmh. Ici, des parties où je prends des culs, bon, j'en ai quand même pris, et quelques-unes. Ouais, mais pour autant, le lendemain de partie, bah, il n'est pas douloureux, quoi. J'ai pas du mal à m'asseoir. Parce que je me suis raconté un truc avec un pote.
Ouais. T'as pas.
Et j'ai passé un moment agréable.
Pas tout le temps.
Parce que la finalité, c'est pas.
Non, aller... non, j'irai peut-être rager sur les jets, etc. Ouais. Mais le moment était sympa.
Ouais.
La finalité, c'est pas l'affrontement. La finalité, c'est pas la conclusion de la partie. C'est finalement de vivre l'histoire.
Mais après, attention, parce que là où je vais te choper au bon, c'est de. Parce que souvent, dans la tête de gens qui sont très tournoyeux, moi je pense que les deux sont. Comme... Tu vois, on a le meilleur exemple. Kirou, il fait les deux. Et ça marche.
Non, je fais pas de résultats en tournoi.
Non, mais d'accord, mais tu
vas même préciser.
Tu joues quand même. Mais
je l'ai pris par
faire du narratif, ça veut pas forcément dire.
Ne pas jouer,
comme tu dis, un peu mou, mais je trouve ce mot un peu dévoyé parce que ça veut pas dire jouer en laissant l'autre gagner.
Sans réfléchir.
C'est quand on joue avec Greg, on se raconte un truc, mais on essaye de gagner l'un et l'autre quand même, de remplir l'objectif.
Le challenge tactique, on n'a jamais dit qu'on l'évacuait. Et d'ailleurs, en fait, voilà. pour la petite parenthèse, moi j'ai fait du tournoi en fait en jeu de cartes. Et j'ai développé en fait des caractères que je déteste. Et en fait, quand je joue en tournoi, j'essaie de jouer la gagne et je déteste cet aspect-là en fait. Et je préfère largement offrir un contenu, un cadre en fait de jeu et un environnement qui va raconter quelque chose à tout le monde, où tout le monde va être cool à la fin. Parce que franchement, je peux être insupportable en fait en jeu. Et je pense que d'ailleurs, jouer narratif, c'est surtout le regard qu'on a sur la partie. Maintenant, ça ne veut pas dire que la partie n'aura pas d'intérêt tactique. Au contraire, il faut qu'il y ait un enjeu.
Ben, ouais.
Il faut qu'on sente, on va dire même l'enjeu de perdre. Non, puis l'adrénaline est liée. L'enjeu de perdre. Donc là, sur Necro, avec Kirou, on était à deux contre...
On a bien senti l'enjeu
de perdre. Des mercenaires, c'était... Mais l'intérêt de la partie, c'était la table où il y avait un train qui traversait le décor. Voilà,
ouais, c'est vrai, c'est super,
une table géniale.
D'ailleurs, il y aura bientôt un contre-rendu.
Là, pour vous étiez vraiment sur une vraie narration. Enfin, sur une vraie narration. Pas que là, c'est une fausse narration, mais je pense que vous avez franchi un cap sur ce scénario-là. Bon, moi, je suis animateur sur la... Enfin, j'étais animateur, c'est bientôt terminé, sur la campagne des Comunda. Ce scénario-là, j'ai pas mis le nez dedans. Mm-hmm. Et vous avez fait une écriture à 4 mains. Vous étiez 4 à écrire le scénario. 5 à écrire le scénario. Et ça, c'est terrible.
Ramy a apporté le truc clé en main.
Ah, peut-être, ouais.
Oui, mais vous avez amené des éléments.
Ouais.
Vous avez ramené
des choses. Moi, j'ai encore jamais fait ça dans ma campagne. Je ne vous ai jamais donné un scénario où je vous ai interrogé sur des éléments à ajouter. Là, on a été sur. Ok, Ramy il a fourni, on va dire, le plat de pâtes. Et lui, il y a mis balsamique, toile gruyère, le machin, etc. Le plat a été génial. Mais c'était quand même très, très bon. On était sur une vraie narration. Vous êtes emparé de l'histoire avant même de la jouer. Et une fois que vous étiez d'accord sur ce postulat, vous avez posé et vous avez fait jouer l'action. Ça, c'était pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus haut sur le scénario narratif. Et ça doit être un vrai pied. Enfin, je l'ai fait quelques fois, mais quand tu participes à ce type de truc, tu t'en rappelles. C'est un vrai marqueur ludique, en fait.
Bah, de toute façon, les prochaines chroniques, elles vont essayer de déplier cette oignon, parce que vous voyez qu'il y a plusieurs couches, en fait.
Vraiment là,
Non, là, c'était juste une intro, parce qu'en fait, il y a énormément de choses à dire. Et à quelle échelle on se place dans le narratif? Est-ce que c'est de l'ordre de la campagne? Est-ce que c'est de l'ordre du système, d'évolution des personnages? Est-ce que c'est sur l'écriture du scénario lui-même, la péripétie, la résolution, etc.? Il y a énormément de trucs que vous pouvez faire dans une partie standard. Je vous donnerai des astuces pour intégrer des éléments narratifs, même dans une partie de tournoi. Voilà.
Et du coup, moi, parce qu'en fait, je pense que la question c'était comment vous jouez narratif. Et en fait, je pense que juste le dénominateur commun qu'on a tous ici pour jouer narratif et comment on joue narratif, c'est juste qu'on prend du temps en fait. Un peu, beaucoup, passionnément pour certains, mais en fait, juste pour jouer narratif, il faut prendre un peu de temps avant sa partie, après sa partie pour se raconter.
Ouais.
Ouais. C'est juste un petit peu de temps supplémentaire.
C'est pas de la consommation simple.
Mais c'est juste un peu de temps supplémentaire. C'est juste ça la base pour moi du jeu narratif en fait. Prendre un petit peu plus de temps que prévu.
Mais après, il y a des systèmes qui permettent aussi. Il y a certains systèmes de jeu qui.
C'est vrai que pour le coup, 40 000.
Mais même si tu prends 5 minutes, même si tu prends 5 minutes avant ta partie et 5 minutes après ta partie, tu prends un peu de temps.
Je t'avouerai que 40 000, j'ai beaucoup de mal. C'est une règle qui, pour le narratif, c'est pas super. C'est quand même compliqué, il faut faire rentrer.
Donc là, ça demande beaucoup de temps.
C'est peut-être pour ça, justement.
Les scénars, je prends énormément de temps.
C'est pour ça que tu as plus de liberté. C'est-à-dire que c'est paradoxal, parce que soit tu vas avoir un truc qui te livre tout, clairement, genre Necromunda, qui donne beaucoup de facteurs de hasard dans les scénarios, soit tu as quelque chose comme Warhammer 40 000, où tout est à faire, et finalement, tu as une liberté totale. Et ça, c'est extraordinaire aussi.
Et ça sera le mot de la fin. Ça fait 80 minutes qu'on podcast. Donc, on va laisser nos spectateurs et nos auditeurs. Vous pouvez nous réécouter.
Merci à tous.
Merci à tous pour nous avoir écoutés. On va vous laisser et on essaye de faire un podcast le mois prochain. Alors, je ne sais pas s'il y aura Kirou, Vonnie, c'est sûr.
André,
Greg viendra avec un inventaire des bonnes affaires. Et voilà.
Faire une enquête.
L'enquête de. Inspecteur Kirou. Allez, salut et Banzai.
C'est vrai. Can't touch this.